Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seil sur les ondes de Canal M pour vous présenter l'émission Le National. Et on y va tout de suite. Portrait de famille avec Marie-Anne Paquette. Le 20 mars dernier, elle accueillait Yvonne Sénéchal, qui est d'ailleurs de Vues et Voix, qui est aussi la maman de Vincent, 33 ans, qui vit avec un traumatisme crânio-cérébral. Eh bien, Madame Sénéchal, nous allons l'entendre en compagnie de Marie-Anne Paquette et de Nicolas Steresco, membre du comité loisirs de l'Association québécoise des traumatisés crâniens.
Nicolas Steresco, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nicolas, vous êtes là parce que vous êtes membre du comité loisirs de l'Association québécoise des traumatisés crâniens, AQTC, patient partenaire à l'Université de Montréal et une foule d'autres choses. Ce qui est important de dire d'entrée de jeu, c'est que vous vivez avec un TCC, traumatisme crânio-cérébral sévère, depuis presque 30 ans.
Oui, depuis 1998.
Suite à un grave accident de moto à ce moment-là, il y a à peu près 13 000 personnes chaque année au Québec qui subissent un traumatisme crânien. Ça peut varier de léger à sévère. Et bien sûr, ça change une panoplie de choses dans les séquelles et la réadaptation. Pour vous, ça a été sévère, on le comprend. Nicolas, ça a changé quoi lorsqu'on se réveille? Bon, un coma de plusieurs jours, plusieurs semaines.
Un mois et demi.
Un mois et demi. Après ça, amnésie.
Oui.
Lié au stress post-traumatique et l'apprentissage. Vous avez dû réapprendre quoi?
Tout.
À manger, à marcher.
Oui, oui. Parce que c'est comme si le cerveau lésé oubliait tout, oubliait de comment faire tout. Alors, il faut qu'on se fasse prendre en main par des professionnels en réadaptation pour tout réapprendre.
Oui.
Et c'est possible, mais ça prend du temps.
Oui. Il faut être patient.
Oui, d'autant autant la victime, le traumatisme crânien, que ses proches.
Oui.
Parce qu'il n'y a, y a pas de réponse précise à toutes les séquelles. Il y a des gros patterns de séquelles, sauf que chaque traumatisme crânien est unique et différent.
Oui. Il y a des atteintes aussi à la mémoire, à la concentration, aux émotions aussi.
Exactement, exactement.
Et ça, vous l'assumez bien, je pense,
oui,
Nicolas.
Oui, maintenant, il faut bien, parce que je n'ai aucun contrôle là-dessus. Cette labilité émotionnelle-là, qui est une de mes séquelles du trauma crânien, elle est incontrôlable.
Oui. On apprend comment à vivre son quotidien. Mmh. Bon, bien sûr, je comprends, il y a toute la réhabilitation, il y a les nombreux suivis médicaux, les passages dans les hôpitaux, mais il y a un jour, il y a un retour à la maison qui se fait comme pour Vincent. Et là, toute la réorganisation, ça s'est passé comment?
Cette étape-là est très déstabilisante. Elle est très, très déstabilisante pour le traumatisme crânien. Pourquoi? Parce que en réadaptation, quand on est suivi en réadaptation, tout est organisé pour nous. Et avec nous, mais aussi pour nous. Alors, quand tu te retrouves à la maison sans aucune balise, nous autres, on est vraiment totalement déstabilisés de ça parce qu'on n'a pas, on n'a plus cette notion d'organisation en nous.
Oui. Avec la mémoire, parfois, qui fout le camp, avec la coordination. Évidemment, oui, Yvonne?
Oui, moi, je remarque chez Vincent aussi, ça y prend beaucoup de stabilité. Mmh. N'importe quel changement, ça le rend frustré, insécure, il fait de l'insomnie. C'est pas de l'agressivité, là, mais comme de l'impatience là, face à n'importe quel changement.
Oui. Nicolas, comment ça a changé le rapport aux proches aussi?
C'est un trauma pour tout le monde, là. Faut pas complètement croire que seulement la victime, sa vie va changer, mais ça change la vie de tous les proches. Il y a avant et après.
Oui, oui. La même chose pour vous, Yvonne.
Oh, absolument, absolument.
Oui. On parle des difficultés en ce moment. Mm-hmm. Il y a des réussites aussi. Il y a des choses qu'on se dit qu'on n'aurait jamais fait si cet accident-là ne se serait pas produit dans notre vie. Peut-être faire de la radio pour vous, Nicolas?
Oui, ça, vous avez raison. C'est une bonne chose. Puis même, j'ai été impliqué dans différentes apparitions sociales ou même télévisuelles que je n'aurais jamais cru avant l'accident. Mais
prévention auprès des automobilistes.
Exactement.
Il y a aussi tout ce travail que vous faites à l'Université de Montréal comme patient partenaire auprès aussi de la QTC, de redonner, c'est possible. Qu'est-ce que ça vous apporte?
Ah, c'est ma nouvelle vocation. Parce que, bien sûr, la majorité des traumatiques crâniens sévères seront innates au travail après l'événement. Puis là, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Puis avec de l'aide, avec bien sûr, je ne suis pas tout seul, mais avec de l'aide qui m'ont dirigé vers des bonnes instances pour retrouver une possibilité d'implication bénévole sociale, bien, je suis parti de ça. Puis après ça, petit à petit, avec ma conscience qui revenait de plus en plus, et mon deuil qui se faisait de plus en plus complet de mon deuil, mon ancienne vie, bien, tout est possible.
Oui. C'est le souhait aussi de Vincent, Yvonne, pouvoir communiquer ce qu'il a vécu, de pouvoir redonner aussi, et c'est possible. Nicolas, qu'est-ce que vous diriez à Vincent qui va nous écouter, certainement, qui nous écoute, dans cette possibilité de communiquer et de redonner?
Bien, qu'il fonce.
Comme vous avez dit tout à l'heure à Yvonne, il faut commencer quelque part, la radio.
Je dis qu'il fonce, mais qu'il fonce, pas les yeux fermés, que s'il en a de besoin, qu'il demande une certaine aide de direction, parce que, OK, un accident de voiture, la SAC, où il y a plein d'organismes ou plein de possibilités, entre autres la QTC pour les traumatismes crâniens. C'est comme ça que j'ai commencé mon parcours de retour socialement en action. Fait qu'il peut, Vincent pourra demander très bien, facilement à l'association, puis de là, partira selon ce qu'il veut, selon ce qu'il peut, suivant les séquelles, parce que les séquelles sont différentes pour tout le monde, de faire ce qu'il lui portera bonheur. C'est du bénévolat, fait qu'on peut choisir ce qu'on veut faire. Puis ce qu'on veut faire, c'est on veut être content, on veut être heureux de faire ça.
Oui, et de vivre, et ça je l'entends bien, de vivre des fiertés, de vivre des réussites.
D'avoir des rêves.
Oui,
ouais, c'est vrai.
Ouais,
de réaliser.
Ouais, de continuer, comme on a parlé du voyage et on y reviendra. Nicolas, ce que vous aimeriez dire à des proches qui vivent auprès d'une personne qui vit avec un TCC?
Que c'est... tout le monde comprend très bien que c'est très dur. Par contre, que rien n'arrive sans travail, puis ça, tout le monde le sait, mais c'est totalement possible d'arriver à quelque chose de socialement acceptable et pour les proches et pour le traumatisé crânien.
Oui,
oui. Parce qu'il y a un deuil à faire, on le sait ça. Mais quand il sera en processus de compléter ce deuil-là, de son existence antérieure, bien, bien sûr, tout est possible. OK, je parle pas de courir les 100 mètres, là. Mais une réorganisation ou une réimplication sociale de multiples façons, comme si pour faire de la prévention des situations ou bien n'importe quoi est possible.
Et ce deuil... il prend du temps à faire. Il faut se laisser le temps. Pour vous, près de 20 ans, Nicolas, c'est encore un processus.
Mon deuil complet, mon deuil total, je me rappelle de ce que je faisais avant, je me rappelle de ce que j'étais avant.
Ah, vous étiez ingénieur.
Fait que entre autres, mais je me rappelle de ça, alors je n'oublierai jamais, puis je n'accepterai jamais, je ne dirai jamais que oui, l'accident fait de moi quelqu'un de mieux, de meilleur. Par contre, oui, sur cette situation, oui, mais mon acceptation de ma vie présente, elle est faite. Elle est totale maintenant. Je fais ce que je veux avec ce que je peux, comme tout le monde. Je fais du mieux ce que je peux avec ce que j'ai.
Oui.
Ça, c'est tout le monde, peu importe l'aisé ou non, fait comme ça, puis c'est possible. C'est possible.
Nicolas Staresco, c'était un grand plaisir de vous avoir en studio avec nous. Merci beaucoup de cette contribution. Je rappelle que vous êtes bénévole auprès de l'Association québécoise des traumatisés crâniens, aqtc.ca, des ressources extraordinaires pour les familles, pour les proches qui vivent avec une personne qui a un TCC. Et également, vous faites une foule d'autres choses très intéressantes. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci beaucoup.
On reste dans la même émission le même jour avec cette fois-ci Vincent François, expert en accessibilité numérique et fondateur de Consultation Boréale.
Vincent François, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un expert en accessibilité numérique, fondateur de Consultation Boréale. informaticien, on peut le dire.
Absolument.
Ce rêve-là, vous avez pu le vivre complètement et aussi être en constat de ce que les nouvelles technologies peuvent faire maintenant pour des personnes en situation de handicap. Juste donner la parole à Yvonne avant. Pour Vincent, ça a été une façon d'entrer en contact avec des gens de partout dans le monde, garder des amitiés aussi, de s'épanouir en quelque sorte.
Bien, tout à fait. Premièrement, ça lui a permis de faire son secondaire parce que Vincent, il a énormément de difficultés là, à écrire. Alors, d'avoir... il était le seul, là, surtout si on recule plusieurs années en arrière, d'avoir un ordinateur portable là, à l'école. Ça lui permet de prendre quelques notes, de faire ses examens aussi là, parce qu'il n'était pas capable d'écrire. Également, il s'intéresse beaucoup à la politique, il s'intéresse beaucoup à la géographie. Alors, il va sur toutes sortes de sites, de chats. Il se fait des... Vincent, il a des amis partout dans le monde.
Oui. On peut voir, Vincent-François, à quel point ces nouvelles technologies-là, et peut-être davantage depuis les 10-20 dernières années, ont contribué carrément à contourner les barrières que peuvent entraîner un handicap.
Exactement. Et là, cet exemple est merveilleux parce que de savoir qu'un enfant a pu faire son secondaire grâce aux technologies et que 20-10 ans avant, il n'aurait probablement pas pu le faire ou ça aurait demandé des complications d'organisation qui auraient fait que ça aurait ajouté des barrières. Donc là, c'est quand même assez formidable. Et moi, quand je donne des cours d'accessibilité un peu partout dans le monde, souvent, j'explique aux gens que dans la salle, on est suffisamment âgé pour savoir qu'on peut vivre sans les technologies d'information. On a vécu, on a travaillé, on a été en concurrence, on a fait de l'économie, on a fait tout ce qui fait notre tissu social et sociétal et sans informatique. Or, les personnes handicapées sont les premiers bénéficiaires de ces outils. Et on a souvent l'impression de les laisser un peu pour compte en disant bah, « on a inventé un nouveau produit, puis ensuite on verra qu'est-ce qu'on pourra faire pour les personnes handicapées ». Alors qu'en fait, on pourrait tout à fait renverser la donne en disant « si les outils informatiques n'étaient faits que pour ceux pour qui c'est vraiment indispensable, c'est-à-dire des gens comme Vincent, alors on verrait les choses tout à fait différemment ».
Oui. Et déjà, d'entrée de jeu, et c'est votre combat, Vincent, de penser à l'accessibilité, parce que c'est bien qu'un outil existe, encore faut-il qu'il soit accessible et à tous.
Exactement. Et de la même façon que dans le monde physique, on a mis un certain temps à comprendre qu'une rampe d'accès à un trottoir, à un escalator, une rampe d'accès à un escalier, des boutons en braille, un ascenseur, etc., étaient des choses qui sont devenues tellement naturelles et tellement utiles pour les personnes qui vivent avec des barrières en se déplaçant en chaise roulante ou en étant aveugle, etc., qu'on a mis un certain temps, mais on le comprend, c'est devenu évident, ça fait partie des normes de construction. Ben, c'est pareil dans le monde numérique. On a un certain retard, qu'on rattrape petit à petit par la bonne volonté des gens, par certaines normes, par des standards internationaux, par des actions de certains gouvernements, et on avance, mais on peut toujours se plaindre que ça n'avance pas assez vite.
Ouais. Et j'imagine aussi par ce contact de personnes qui créent le numérique et des personnes qui en bénéficient comme des personnes en situation de handicap.
Ben exactement, c'est ce contact qui est quand même primordial. Moi, c'est pour ça que j'aime ce travail, parce que bon, il y a des enjeux techniques. L'ingénieur que je suis peut triper sur des problèmes à résoudre. Comment une personne aveugle va avoir accès à un écran, par exemple.
Ouais.
Puis aussi, c'est des problèmes très humains. On sait que le travail qu'on fait sert réellement à des vrais gens qu'on a vraiment besoin. Moi, j'ai pas de problème avec mes yeux ou à me déplacer, donc je peux très bien acheter le journal en me déplaçant, en payant des pièces de monnaie. Il y a des gens pour qui ça n'est pas possible de faire tous ces gestes-là. Ils ne pourront le lire que parce qu'il est en version numérique accessible.
À la maison. Oui. Vincent, j'ai envie de vous entendre sur des exemples de numérique accessible et outillant.
Alors, aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est l'éducation, à partir du moment où on est capable de transmettre l'information qui est transmise dans le cadre d'un cours à travers un logiciel, à travers des logiciels de formation en ligne, le fait de les rendre accessibles permet donc à n'importe qui, quelles que soient les situations de handicap, à suivre le cours, mais surtout à en tirer des bénéfices, et puis aussi à y apporter sa contribution. Parce qu'il y a aussi ça qu'on oublie parfois dans la démarche d'accessibilité, c'est qu'on dit on ne veut pas oublier des personnes qui sont des situations de handicap. Et puis en fait, ça veut dire, tiens, on est prêt à les oublier parce que c'est des pourcentages pas significatifs, etc. Ce genre d'excuses qu'on entend régulièrement. Mais on se prive aussi de la participation de ces gens au monde dans lequel on vit. Et c'est ça qui est presque la chose la plus importante. C'est pas parce qu'on a eu un accident ou parce qu'on a une déficience physique qu'on n'a pas quelque chose à dire au monde dans lequel on vit. Ça, on se prive de la parole et on se prive de la participation de plusieurs utilisateurs qui, pour le coup, pour ce qu'ils ont à dire, n'ont aucune limitation. Et à part celle qu'on crée dans les barrières technologiques.
Yvonne, est-ce que Vincent pourrait envisager éventuellement de continuer des études avec ces technologies-là, justement, qui sont sans cesse à la fine pointe et qui contribuent toujours de plus en plus à faciliter la vie des étudiants qui vivent en situation de handicap?
Vincent, c'est les déplacements qui sont difficiles aussi. Ouais. Alors, ça prendrait
des cours à distance,
de e-learning...
Oui.
Qu'il peut faire à sa vitesse aussi.
Et ça, ce sont plein d'exemples. Là, on parle d'éducation, mais on pourrait parler de loisirs aussi, de communication, d'échange, parfois qu'on ne perçoit pas et qui sont des outils, Vincent.
Alors, effectivement, pour ce qui est tout le loisir, ou même avant le loisir, le fait de se déplacer. Aujourd'hui, on utilise beaucoup des petits outils, des logiciels de cartographie qui nous permettent de savoir à quelle heure on sera à tel endroit pour pouvoir choisir son métro, etc. Ça, un outil pour une personne aveugle, par exemple, ou quelqu'un qui a des difficultés de déplacement, mais qui va se déplacer de façon autonome, hein, qui ne va pas utiliser ni un taxi, ni un service de transport adapté, vont bénéficier énormément de ce genre de choses. Vont savoir où aller, comment, et savoir si c'est un trajet fatigant, si c'est un trajet compliqué, si c'est un trajet qui est multimodal et qui va demander des changements de véhicule un peu. Donc ça, voilà un outil formidable. Ensuite, et donc, rendre accessible un outil comme ça, c'est vraiment essentiel pour l'autonomie des personnes handicapées qui auront à se déplacer. Pareil pour les loisirs, choisir un hôtel, choisir une destination, avoir accès à des... savoir réserver un vol d'avion de façon indépendante avec un site accessible, c'est pas anodin comme démarche d'autonomie.
Est-ce que ça intéresse les gens de techno, l'accessibilité universelle en numérique?
Alors...
Je vois votre visage, c'est pour ça que je ris.
Alors, les individus, oui. Les organismes, les entreprises privées qui ont des avocats qui les poursuivent s'ils ne sont pas accessibles, oui. Les gouvernements dans lesquels il y a suffisamment de gens intéressés à faire avancer les choses, oui, avec la lourdeur normale d'un groupe. Mais le reste du monde, c'est-à-dire encore beaucoup de gens, non, ils attendent un petit peu d'être frappés par un...
D'être contraints.
Oui, il y a une attente d'être contrainte. Moi, j'ai formé plus de 1000 personnes au Québec et dans le reste du Canada en accessibilité ces dernières années. Je n'ai rencontré que des petits employés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas une décision à prendre dans leur hiérarchie. Mais dès que je tapais dès que je rencontrais des directeurs ou des gens, je sentais que... Une attention polie, mais pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que l'accessibilité marche encore beaucoup par la bonne volonté des gens.
Oui.
Donc, la bonne volonté individuelle des gens.
Mais vous savez quoi? Vusezvoix.com est accessible. Ça, c'est une fierté. C'est essentiel, Yvonne, bien sûr, que notre site ici le soit accessible aux personnes qui vivent soit avec un handicap visuel ou, bon, avec tout type de handicap. Vincent, on fait comment pour, et on en a parlé tantôt, mais pour renverser cette boucle pour que, en fait, d'entrée de jeu, ça ne soit pas un obstacle?
Alors, d'entrée de jeu, c'est-à-dire que c'est plus facile de prévoir l'accessibilité en amont de quoi que ce soit, comme dans le monde numérique. Hein. C'est casser un trottoir pour le rabaisser après, c'est un peu pénible. Prévoir tout de suite les bonnes couleurs, les bons contrastes, avoir une bonne structure du code HTML derrière la page web pour s'assurer que ça fonctionne, prévoir les images et leurs textes de remplacement dès le début, ça coûte 15, 20 fois, 30 fois moins cher que de les corriger à la fin. Donc déjà, le bon sens fait que c'est une bonne idée de commencer par ça. Ensuite, une deuxième façon de bien comprendre, c'est d'être sensibilisé. Et le mieux que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est voir une personne handicapée être confrontée à un problème numérique. Ça, la moitié du message est passé. Une fois que les gens ont vu ça, eh ben, ils sont avides de comprendre les façons de faire pour le rendre accessible.
Ou encore de voir une personne en situation de handicap bénéficier de la technologie, l'utiliser, que ça puisse lui permettre d'accéder à des études supérieures, de voyager, d'être en contact, de contribuer à notre société. Et ça, j'espère qu'on en verra de plus en plus. Consultation-boreal.com, c'est accessible ça, Vincent?
Oui, comme vous et moi, j'ai travaillé aux deux.
Et c'est pour ça que vous êtes là, on vous a reçu avec grand plaisir. Merci pour cette discussion, Vincent François, vous êtes expert en accessibilité numérique et fondateur de Consultation Boréal.
Merci.
Extrait des paractualités du 20 mars, 5 vérités sur les troubles d'apprentissage avec Égide Royer. J'ai la chance ce matin de m'entretenir avec Égide Royer. Bonjour, Monsieur Royer.
Bonjour.
Monsieur Royer, vous êtes considéré comme une pointure dans le domaine de l'enseignement. Je peux même vous dire qu'il y a ici des gens, des bénévoles qui sont d'anciens enseignants, notamment des gens à la retraite, qui ne jurent que par vous.
Ah,
j'espère que ça vous fait plaisir.
J'essaie de faire mon possible déjà depuis quelques décennies,
oui. Oui, c'est ça. Et puis, M. Royer, vous allez donc participer à ce congrès annuel en présentant notamment une conférence, hein? C'est bien cela?
Oui, il y a un dîner-conférence et par la suite, en fin d'après-midi, une autre conférence que je vais donner sur un sujet le complémentaire.
Alors, je voudrais bien, moi, savoir, pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que les cinq fantastiques? Je pense que c'est sur ce sujet, entre autres, que devrait porter l'une de vos conférences. Qu'est-ce
oui,
que c'est, les cinq fantastiques?
Les cinq fantastiques, c'est que si on veut, et il y a un lien même avec la nouvelle précédente que vous avez mentionnée concernant les semaines d'accord.
Oui, absolument.
Regardez, Obama soulignait vaut mieux bâtir des enfants et des adolescents forts que de réparer des adultes brisés. Et ça, c'est la première idée fantastique. Et cette première idée-là va être en rapport au fait qu'on a absolument investir davantage au niveau de la prévention, de l'intervention précoce, dans le domaine qui nous intéresse, entre autres en lecture chez les petits, et entre autres par rapport à l'ensemble des jeunes qui ont des besoins particuliers. La deuxième était que la meilleure, au lieu d'expliquer l'échec scolaire par la pauvreté, essayons donc de combattre la pauvreté par la réussite scolaire. Et c'est pas simplement un jeu de mots. C'est l'idée que le meilleur antidote qu'on possède présentement, d'une manière même intergénérationnelle, là, que ce soit des parents vers les enfants et lorsque ces enfants-là eux-mêmes auront des enfants, c'est vraiment d'intervenir. L'éducation est le meilleur antidote qu'on a par rapport à la pauvreté, par rapport à la misère. Il va falloir que, comme société, on le reconnaisse aussi. Bien plus que le salaire minimum garanti, bien plus que l'ensemble de mesures qui sont dans le même important, la première est vraiment la réussite éducative. Et une troisième, qui est moins sexy un peu, mais qui est comme le soleil se lève à l'est, il y a une surreprésentation des garçons au niveau des élèves en difficulté au Québec. 65% de tous les jeunes dont on parle au Congrès sont des garçons. Et l'autre élément, c'est qu'il y a une sous-scolarisation des hommes au Québec. Que ce soit au niveau collégial ou au niveau universitaire, il y a un écart énorme qu'il va falloir rattraper parce que les filles réussissent et diplôment beaucoup mieux que les garçons à l'école. Et ça, ça a un impact réel présentement, même au point de vue économique, mais surtout personnel.
Oui.
La quatrième grande vérité, c'est qu'en éducation, on attrape les mythes comme on attrape le rhume. Donc là, il va falloir qu'une fois pour toutes, on se sorte des auditifs individuels, qu'on se sorte du fait que les enfants n'utilisent que 10% de leur cerveau et que le fait de mélanger CB et CD, c'est un signe de dyslexie. Et là, je peux vous en donner pour le restant de l'avant-midi.
Ah oui.
C'est fantastique. Donc, il y a un lien avec la conférence que je vais donner le midi. Il va falloir qu'on cesse d'improviser en éducation et qu'on colle la recherche et les pratiques probantes. Parce que là, ça commence à être...
Mais comment ça se fait qu'on n'avance pas dans le dossier de l'éducation? Puis j'allais dire, comme dans le dossier de la santé, d'ailleurs, en général. Où est-ce que ça fige, monsieur Royer? Je ne sais pas
si... en éducation qu'en santé. Regardez, si je vous donnais... Si demain matin, je vous disais que le taux de mortalité infantile augmente au Québec... Écoutez, ça serait une catastrophe. Écoutez, il y aurait une mobilisation générale. Même, on a seulement quelques enfants qui meurent sans être vaccinés parce que les parents ont refusé le vaccin ou parce que l'école ne l'a pas offert, parce que l'hôpital ne l'a pas offert. Et là, ça serait terrible. Mais moi, je vous dis que le nombre d'élèves en difficulté au Québec, là, depuis 10 ans, est passé de 15% à 21%.
Ben, voyons donc.
Si je vous disais que le taux de diplomation des élèves en difficulté est de 31%, si vous allez au Massachusetts, il est de 68%. Si vous allez dans les États américains en général, il est de 60%. Écoutez, je ne vais pas vous ensevelir sous les chiffres. Je ne sais plus comment les présenter, mais ça relève carrément de la faute professionnelle globale que de laisser aller autant de jeunes en difficulté et surtout de les laisser aller vers le secondaire avec si peu d'habileté, entre autres en lecture. Et une des principales variables, un des principaux facteurs, c'est qu'on n'applique pas. Et c'est le gros changement qui est arrivé en Ontario depuis une quinzaine d'années, d'ailleurs. On n'applique pas ce qu'on connaît, qui est véritablement basé sur des données probantes. D'où mon exemple de rhume et de mythe.
Oui.
Si vous allez consulter votre cardiologue, là, votre cardiologue, normalement, ou votre dentiste, il y a des obligations de formation professionnelle et normalement, votre dentiste, votre cardiologue va être au fait des données ou des pratiques les plus récentes, non soutenues carrément par des données de recherche.
Oui.
Et c'est encore trop rare en éducation.
Oui.
Et c'est L'éducation, c'est pas simplement une vocation, c'est une profession qui devrait, comme telle, devenir reconnue aussi comme une profession.
Bien sûr. Je voudrais, monsieur Royer, rebondir sur une phrase que vous avez eue il y a à peu près une minute. On n'applique pas ce qu'on connaît.
On n'applique pas ce qu'on connaît des données probantes ou des pratiques exemplaires. Et c'est pour ça qu'on se retrouve toujours avec des situations qui...
Avez-vous un exemple, s'il vous plaît, pour nous?
Le fait, je vous en ai un très, très concret. D'ailleurs, Monique Brodeur, la doyenne des facultés de sciences d'éducation, va revenir là-dessus durant le congrès. Mm-hmm. Le fait d'offrir la maternelle 4 ans à tous les jeunes du Québec et d'inclure dans cette maternelle 4 ans-là une forme d'enseignement ou de reconnaissance des lettres et sous forme de jeu, d'avoir un genre de littératie précoce qu'on développe chez les enfants de 4 ans. Mm. Ça, c'est comme le soleil se lève à l'est, on a des données probantes pour dire qu'il y a une plus-value.
Bien sûr.
Mais plus concrètement que ça, regardez, présentement au Québec, on offre la maternelle 4 ans au milieu défavorisé. En disant qu'il y a plus d'élèves vulnérables ou d'enfants vulnérables dans les milieux défavorisés, ce qui est vrai. Mais ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que la majorité des 200 000 jeunes qui sont en difficulté dans les écoles du Québec n'habitent pas en milieu défavorisé. Regardez, est-ce que ça dépend de votre code postal ou, ou de votre montant déclaré à l'impôt au 30 avril, le fait d'avoir un enfant qui a un trouble de l'autisme? D'avoir un enfant qui a un trouble d'articulation, est-ce que ça dépend de votre code postal, que vous habitez un coin défavorisé, ou est-ce que ça dépend de votre revenu familial? Non. La déficience intellectuelle dont on parlait tout à l'heure dans votre émission, est-ce que ça dépend du code postal?
Non.
Donc, en clair, là, on se retrouve dans une situation où, je reviens continuellement avec ça, c'est parce que c'est nos voisins, vous avez plus de chances de réussir à l'école si vous êtes en difficulté d'un côté de la rivière des Outaouais que de l'autre. Et on n'est pas du bon côté présentement. Les taux de diplomation présentement en Ontario sont d'environ 85-86%. Ils ont appliqué ce qu'on connaissait basé sur des données probantes, des meilleures façons d'intervenir. Ils ont un des 10 meilleurs systèmes éducatifs au monde. De notre côté, on traîne de la patte encore avec des taux de diplomation globalement au Québec, là, de 72-73%. Celui d'Ontario est de 85%. Celui des francophones ontariens est de 92%. Comprenez-vous que je ne sais plus comment le présenter. D'ailleurs, il va y avoir beaucoup d'atmosphère dans la conférence que je vais donner sur l'heure du midi, parce que je vais donner poser la question et donner les critères d'évaluation. Est-ce que le ministère de l'Éducation aura la note de passage dans sa prochaine politique sur la réussite scolaire? Et je vais donner la grille de correction.
Écoutez, Égide Royer, je comprends pourquoi beaucoup de gens vous voient dans leur soupe, parce que ce que vous venez de nous dire est totalement déprimant, mais c'est en même temps très, très éclairant.
Oui,
la façon... comment vous me dites?
On sait quoi faire.
Dans on sait temps, quoi faire,
comme c'est
tel, ça.
Un peu exaspéré, mais non déprimé.
Non. En tout cas, non, mais quand je dis déprimant, je veux dire que c'est dans le chiffre, quoi. Ça fait mal, quoi, de voir. Mm-hmm. Écoutez, je suis contente que vous vous adressiez à autant de monde et que vous soyez là quand même pour tirer constamment les sonnettes d'alarme et continuer de le faire. Égide Royer, merci beaucoup.
C'est plaisir.
Bonne journée, au revoir. Et c'est l'émission Le National qui se poursuit, toujours animée pour vous par Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. À l'émission C'est bon pour la santé avec Marianne Paquette, le 12 mars dernier, Marianne s'entretenait avec Véronique Riel, coordonnatrice chez Audition Québec. Les personnes âgées peuvent attendre 10 ans avant de consulter pour une perte d'audition. Ensemble, elles parlent des étapes à franchir et quels sont les enjeux pour elles et l'entourage.
Elle est avec nous en studio, Véronique Riel, coordonnatrice chez Audition Québec, également malentendante. Véronique, vous êtes donc très bien placée pour nous parler de tous les enjeux qui sont liés à la perte de l'audition chez une personne âgée. C'est notre cible aujourd'hui. Ça entraîne évidemment beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'une personne qui est en perte d'audition peut attendre des années avant d'aller consulter. Pourquoi donc?
Oui, en fait, on parle d'une moyenne d'environ 10 ans avant qu'une personne qui a développé un trouble d'audition à l'âge de 70 ans et plus, ou peut-être moins, décide d'aller consulter des spécialistes pour valider si le problème d'audition est bel et bien là.
Les raisons pour lesquelles je crois que c'est juste une question d'acceptance à la base. On s'imagine qu'on entend encore bien alors qu'on se met à manquer des choses. C'est plus notre entourage qui va le faire remarquer. Mais tout à fait, c'est dommage parce que c'est un handicap qui est invisible.
Ouais.
Et malheureusement, pour cette raison-là, les gens persistent avant d'aller voir, contrairement à quelqu'un qui a un problème de vue, par exemple, attendra pas 10 ans pour vouloir voir les choses de loin ou de près. Les problèmes de surdité prennent beaucoup de temps avant qu'on l'accepte et qu'on décide d'aller consulter, oui. Malheureusement.
Est-ce que toutes les personnes âgées sont à risque de développer une perte d'audition?
Selon les statistiques, on parle d'environ 65 % là, des personnes âgées de 70 ans et plus.
Mm-hmm.
C'est quand même un gros pourcentage. Bien entendu, plus elles vieillissent, plus la perte d'audition est fréquente. On parle également qu'il y a quand même une bonne perte qui peut survenir dans les alentours de la cinquantaine, 60 ans. Et par la suite, bon, on connaît la suite, là, les personnes ouais. âgées sont définitivement plus à risque de devenir malentendantes qu'une, ouais. qu'une jeune personne ou de naître malentendante, si on veut.
Véronique, je m'adresse aux gens âgés, plus âgés, oui, qui oui. nous écoutent, à leurs proches oui. aussi. Quels sont les signaux qui peuvent nous permettre d'identifier une perte d'audition?
Il y en a plusieurs. À la base, je pense, c'est quand on fait répéter quelqu'un à plus d'une reprise lorsqu'il nous parle ou qu'on soit dos à la personne, qu'on réalise pas que la personne nous parle. C'est vraiment des changements d'habitude de ce qu'on a fait avant. Mettre la télé plus fort, avoir de la difficulté à parler au téléphone, des situations comme ça dans le bruit également.
Ouais,
ça
au restaurant,
au restaurant, on voit que la personne est en retrait beaucoup plus, parle moins avec les autres. Puis la raison est certainement parce qu'elle ne comprend pas les sujets de conversation. Des fois, c'est seulement une oreille, des fois, c'est les deux oreilles. Donc, ça peut dépendre aussi d'un côté, elle peut bien entendre et de l'autre côté, non. Mais à partir du moment que du bruit, ça devient très difficile pour la personne. Alors ça, ce sont vraiment des signes avant-coureurs, si on veut. Les sonnettes de porte, les alarmes de feu, dépendamment où la perte d'audition ouais. se trouve, ça devient toutes des raisons pour lesquelles on doit commencer à se poser des questions là, à un certain âge.
Et vous parlez d'alarme de feu, et oui. tout de suite, ça m'amène à me dire, il y a une notion de sécurité aussi.
Oui, oui. Les personnes devenues malentendantes, surtout pour avoir entendu toute leur vie, développent une très grande insécurité par rapport à leur sécurité personnelle, si on veut.
Ben oui.
Alors, ils sont dans la maison, il y a une alarme de feu qui est déclenchée, surtout si on parle, mettons, de centre de personnes âgées où toutes les unités sont séparées, on est souvent dans notre propre chambre à nous. Si la chambre n'est pas adaptée avec des lumières stroboscopiques et que, justement, la personne refuse d'aller faire un suivi pour déterminer si elle est malentendante, ça va créer des enjeux, ça va créer de l'insécurité. Et oui, ça développe ça naturellement. À la base, je pense que les personnes âgées, plus on vieillit, là, c'est juste naturel, on devient de plus en plus insécure, si on veut. Alors, on ajoute cet élément-là en plus de moins bien entendre. Et on ne parle pas juste là, des alarmes de feu, mais on parle également de se promener dans la rue et de ne pas savoir si quelqu'un est derrière nous
c'est
et de
vrai.
Faire le saut.
D'entendre la voiture.
Exact, d'entendre la voiture, de traverser la rue, de risquer de se faire frapper.
Le four aussi qui peut sonner.
Tout,
ouais.
tout ce que des sons... très souvent, c'est dans les sons aigus que la baisse va commencer. Et les sons graves vont plus être affectés à la fin. Donc, c'est sûr que quand on parle de sons aigus, on parle de tout ce que vous m'avez nommé, là, ouais. définitivement. Là.
Véronique, la perte d'audition amène, et on a commencé à le mentionner, des problèmes dans la communication oui. avec les autres. Et j'ai l'impression que parfois, les proches, à tort, peuvent penser que c'est un trouble de cognition, avant même le problème d'audition.
De manque d'attention, effectivement. On va... C'est déjà un problème difficile aux personnes d'accepter. Si en plus on les met dans le spot, là, excusez-moi mon oui. slang, là, en disant ben là, comment ça se fait, t'entends pas aujourd'hui ou t'as-tu mis tes appareils aujourd'hui? C'est vraiment des situations dans lesquelles les personnes malentendantes vont se sentir très brimées et vont préférer juste pas les porter, se retirer et de plus en plus vont s'isoler. Alors, définitivement, c'est très souvent l'entourage qui fait en sorte que des fois, quand on parlait tantôt, la lenteur à laquelle les personnes décident d'aller consulter, des fois, c'est de l'influence de l'entourage sans nécessairement les pointer du doigt. Mais je pense que les gens ne savent juste pas comment agir avec ce changement-là.
Oui. En tant que proche, il y a des choses qu'on peut faire pour faciliter la communication avec notre personne, notre proche qui est malentendant. Autant la communication aussi que toute l'acceptation de sa nouvelle situation.
Tout à fait. Bien, on appelle ça des stratégies de communication, si on veut, dans le jargon de notre association. Là. Mm-hmm. On parle de parler devant la personne, de s'assurer qu'on voit les lèvres, parce que la lecture labiale va être quelque chose qu'on va développer, c'est-à-dire que plutôt que d'entendre les sons, on va regarder le mouvement des lèvres. Donc, de parler devant la personne, de lui taper sur l'épaule pour s'assurer qu'elle nous voit, de ne pas lui parler de dos, de s'assurer qu'il n'y a pas trop de bruit environnant. Et parfois, ça peut juste être de mettre la personne sur la piste de qu'est-ce qu'on discute exactement. Ouais. Alors, à un moment donné, on va parler de politique et tout de suite après, on va parler de la vie de tous les jours, mais la personne pense qu'on parle encore de politique. Donc, c'est de l'aviser à ce moment-là. Ouais. C'est tous des petits détails comme ça qui font en sorte que la personne va accepter de mieux en mieux sa perte d'audition.
Elle va se sentir intégrée quand même.
Elle va se sentir à l'aise avec son handicap. Oui. Et on parle encore une fois là, vraiment de personnes qui le développent à un certain âge, alors que toute leur vie, ils ont bien entendu. C'est vraiment un gros enjeu rendu là.
Vous conseillez aussi aux personnes touchées par une perte d'audition de le dire d'entrée de jeu à l'interlocuteur.
Oui, mais ça demande, oui, effectivement, quelqu'un comme moi qui est née malentendante va être très à l'aise et va être très capable de voir aussi la réaction des gens en me regardant pour dire « ça paraît qu'elle n'a pas compris » et vice-versa. Alors, c'est facile pour moi de le dire, mais encore là, quand on est une personne qui devient malentendante, c'est d'autant plus difficile. C'est vraiment quelque chose qu'on doit ancrer en nous et comme être à l'aise de parler. Donc, il faut d'abord l'accepter, puis après ça, oui, c'est important de dire, en passant, je suis malentendante, pourrais-tu, s'il vous plaît, faire attention quand tu parles ou me regarder quand tu parles ou parler plus lentement?
Et c'est pas une affaire de parler plus fort.
Non, effectivement, il faut faire très attention. C'est pas en élevant le ton ou en criant après la personne qu'on va lui faire comprendre ce qu'on a à dire. Au contraire, ça risquerait de la retirer de la situation. Elle va se sentir attaquée, en quelque part. Oui. Dépendamment des tempéraments de chacun, mais ça peut créer énormément de frustration. Et ça l'explique tout le pourquoi, à un moment donné, l'isolement arrive. Donc, il peut y avoir un début d'acceptance en disant « bon, OK, je suis malentendante, je vais faire ce que j'ai à faire », mais des fois, la réaction des entourages vont faire en sorte que ça ne passe plus. Là.
Oui. On a parlé de stratégie de communication. Oui. Il y a des appareils auditifs aussi qui existent.
Oui. Ça, c'est vraiment les outils d'assistance pour les personnes malentendantes. Donc, une fois qu'on va consulter les spécialistes pour la perte d'audition, bien, on va nous proposer des appareils auditifs qui vont, encore une fois, il faut faire très attention. Les appareils auditifs, nécessairement, ne changeront pas le son pour que tout soit entendu. Ils vont souvent amplifier tous les sons. Donc, si on est dans un endroit bruyant, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va tout comprendre encore.
Et qu'on entend mieux.
Et qu'on entend mieux, nécessairement. Il faut vraiment faire attention à ça. Les gens s'imaginent que parce qu'on a des appareils auditifs, que tout est réglé.
Oui. Et en même temps, il y a peut-être un stigmate aussi lié au fait que lorsqu'on a un appareil auditif, ben ça paraît qu'on a un handicap ou une certaine limitation.
Bien, dépendamment. Les femmes, très souvent, vont te cacher avec leurs oreilles. Pas comme moi, où je suis capable de me promener avec des couettes, là. Mais encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est visible. Et les appareils, maintenant, sont tellement minimes et esthétiques, si on veut. Ça arrive très souvent que les gens ne remarquent même pas qu'il en a, là. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment des choses à valider. Ouais. Puis ça prend beaucoup de courage pour la personne qui devient malentendante d'aller de l'avant et de le dire. Là.
Du courage et du temps, il faut s'en laisser.
Oui, il faut s'en laisser, tout à fait.
À quel moment on consulte?
Moi, je pense que dès les premiers signes où on sent un changement dans la façon dont on entend, qu'on réalise que les gens deviennent de plus en plus frustrés après nous, entre guillemets, là, pour nous faire répéter ce qu'on a à dire. C'est les premiers signes là, des choses qu'on entendait avant qu'on n'entend pas nécessairement maintenant. Je vous donne un exemple. Il y a des syllabes qui sonnent pareil également, comme pain et bain.
Oui.
Donc, dans le contexte de la situation, peut-être qu'une personne devenue malentendante et qui ne fait pas la lecture labiale va comprendre la même chose. D'aller manger un pain et de prendre son bain, ce n'est pas la même chose. Alors, voilà.
Et en terminant, Véronique Riel, c'est la journée nationale de l'audition le 5 mai. Le 2 mai.
Le 2 mai,
merci.
Oui.
Est-ce que ça sera souligné par Audition Québec?
Tout à fait. Audition Québec est en partenariat avec la Journée nationale de l'audition qui va avoir lieu le 2 mai prochain. Si vous voulez avoir des informations, je vous invite à aller sur le site web www.journée-audition.ca. C'est vraiment une journée qui va souligner la santé auditive et le thème de cette année est le dépistage. Pour les personnes justement, qui deviennent malentendantes, je crois que c'est une journée avec laquelle on aurait plusieurs choses en commun. Il faut mentionner que la JNA existe depuis plusieurs années en France et cette année, c'est la première année qu'on la développe ici. C'est vraiment un événement avec lequel Audition Québec et plusieurs autres partenaires que vous allez pouvoir voir sur le site Internet sont très heureux de s'affilier et avec un groupe très énergique qui croit en la santé auditive puis qui croit aux personnes malentendantes. Alors, c'est génial.
Je pense qu'on va se reparler
le 2 mai,
Véronique Riel. auditionquebec.org pour en savoir davantage. Vous êtes coordonnatrice à cet organisme. Merci beaucoup, ça a été très éclairant.
Ça me fait très plaisir.
Ce fut réellement un bonheur pour moi le 23 mars dernier de recevoir à l'émission Boucard Diouf pour le livre « Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres ». Vous n'avez pas pu l'entendre? Eh bien voilà. Cher Boucard. Boucard, ça y est, il est parti, là. Il décolle. Ben oui.
J'adore ça.
Ben oui, hein. C'est un petit peu frustrant d'interrompre cela, mais en même temps, vous savez que j'ai autant aimé votre livre « Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres » que ce que vous semblez aimer Bach. Boucard Diouf.
Merci Clotilde. Mais moi, je pense que les œuvres qui traversent le temps sont surtout je pense que touche le cœur avant l'esprit.
Mais oui, tu sais. Mais oui, vous avez
Ou en
raison.
Même temps, peut-être touche l'esprit. Moi, j'aime beaucoup les trois, la rate, le cerveau et le cœur. Ces trois-là, je les aime beaucoup. Parce que sont interreliés. Quand tu fais rire les gens, c'est beaucoup plus facile d'aller avec quelque chose de sérieux et de semer quelque chose dans leur tête.
Mais, Boucard, permettez-moi de vous dire que j'ai beaucoup de mal maintenant à vous voir, à vous penser, à vous qualifier d'humoriste. Vous êtes pour moi beaucoup... C'est même pas beaucoup plus parce que je ne voudrais pas minimiser le travail d'un humoriste. Au contraire, c'est un métier très difficile. Mais vous êtes plus que ça. Vous êtes un scientifique, on le sait. Vous êtes un chroniqueur très lu. Je pense que vous êtes un des déracinés les plus lus, les plus adorés, les plus respectés aussi au Québec et un des auteurs aussi. Et si ça faisait si longtemps qu'on voulait vous avoir, c'est que je sais que l'humaniste en vous apprécierait certainement sa venue ici à Canal M dans l'environnement de Vues et Voix, parce que maintenant vous savez ce qu'on fait.
C'est magnifique.
Et votre livre est donc disponible pour les personnes non-voyantes, comme Nicole Trudeau, mais Nicole lit encore en braille. Mais il y a beaucoup de gens qui écoutent.
L'humour, ça a été un aboutissement dans ma vie. Ça n'a jamais été un
but. Non, c'est ça.
Je ne me suis jamais levé un jour en disant j'aimerais ça devenir faire un spectacle d'humour. Et ce que je fais sur scène, effectivement, c'est pas juste de l'humour, c'est toujours
L'humour est un tremplin pour amener les gens ailleurs. Parce que le dernier spectacle que j'ai fait s'appelle « Pour une raison X ou Y ». Mais c'est une réflexion autour de la reproduction humaine, des liens entre la mère et l'enfant, du couple. Mais c'est de la biologie, c'est un cours de biologie. Oui. Donc, j'aime bien mélanger tout ça. Donc, quand ça touche le cœur et ça stimule l'esprit et dilate la rate.
Les trois
sont mes cibles. Même quand j'écris, c'est ça aussi.
Boucar Diouf, les arbres, les végétaux, vous l'écrivez vous-même, sont vos amis.
Oui.
Blesser les arbres et les végétaux, c'est vous blesser.
Mais absolument.
D'ailleurs, dans l'introduction, il y a des photographies pour appuyer que je pourrais décrire, mais laissez-moi vous relire en étant page 15. Oui. Et vous dites qu'un jour, peut-être que ces études, on va comprendre de quelles études on parle, un jour me donneront-elles raison quand je disais à mon père que les baobabs souffraient quand on arrachait leur écorce. Et là, il y a une photo qui fait mal, où on voit effectivement les cicatrices. Ouais. Laissé par la main de l'homme lorsqu'on écorçait, d'ailleurs écorché, j'imagine que ça vient de là, écorcé.
Absolument, hein. on les déshabille. Moi je disais déshabiller parce que le baobab c'est une plante, c'est un arbre qui n'a pas de bois. C'est une réserve d'eau, c'est de l'eau, mais il n'y a pas de bois là-dedans. C'est quand tu le brûles, tu n'as pas de charbon là. Alors, donc nous ce qu'on faisait c'est qu'on déshabillait l'écorce des baobabs et en dessous il y a des fibres végétales qu'on utilisait pour faire les cordes, les cordages avec lesquels on attachait les zébus. Mmh. Donc, chaque année, il fallait les déshabiller. Puis, je trouvais ça un peu cruel. De prendre l'arbre et de le dénuder. Puis, c'est blanc. Mmh. Le bas est blanc. Puis, l'arbre, ça cicatrisait. Et avec le temps, ça faisait des bourrelets de cicatrices autour de l'arbre.
Oui, puis, ce n'était pas des belles cicatrices. Hein. ce sont des cicatrices de blessures dont on ne s'est pas occupé.
Absolument.
Hein. Ce n'est pas de la belle cicatrice chirurgicale.
Non,
ce n'est pas ça du tout. Alors, vous parliez aux arbres. Hein. C'est ce que vous racontez aussi. D'ailleurs, c'est même carrément sur la page couverture. Je vais aller en page 21. Et vous dites, après avoir longtemps parlé au baobab, j'ai aujourd'hui décidé de les écouter, me raconter la vie et de transcrire leurs paroles à travers ce modeste bouquin. C'est ma façon de rendre à ces arbres ce qui appartient à ces arbres.
Oui, mais j'ai toujours été quelqu'un de... jeune enfant, j'étais quelqu'un de très solitaire.
Oui.
Et donc, comme je gardais beaucoup les vaches pour mon père, il avait fait un berger professionnel avec moi. Et donc, j'avais besoin de spectateurs. Alors, de temps en temps, j'étais sous les arbres et je leur parlais. Ma mère pensait vraiment que j'avais des problèmes. J'ai remarqué, jusqu'à maintenant, elle pense que j'ai des problèmes aussi. Je ne pourrais pas lui dire j'ai écrit un livre où ce sont des arbres qui parlent. Je pense qu'elle va dire, OK, je t'aurais amené voir le sorcier à l'époque. Pour sortir le diable de ton corps. Et donc, des fois, quand j'avais des cours de sciences et j'étais devant un baobab, parce que j'ai trouvé que c'était des arbres exceptionnels.
Ouais.
Et moi, le baobab dont il s'agit, mon arrière-grand-père, mon grand-père sont enterrés juste en dessous.
C'est ça.
Et donc, quand j'ai commencé à faire de la biologie, j'ai dit, connaissant un peu le cycle de la vie, je suis convaincu que mes grands-parents ont été recyclés dans le baobab. Donc, c'est à eux que je parle. Ouais. Je le sais qu'ils sont là-dedans.
Oui.
Et donc,
oui.
Des fois, je prenais des cours de biologie, je racontais ça au baobab, c'était ma façon d'apprendre.
Ouais.
Et donc, je me dis, si un jour il décide de me parler cet arbre, il pourra peut-être me réexpliquer ce que moi, je lui avais expliqué dans ma jeunesse.
Oui, et en plus, vous dites même, je m'excuse, je n'ai pas exactement la formulation, mais que finalement, vos ancêtres ont nourri ces arbres-là, mais qu'eux-mêmes ont rendu à l'homme, c'est-à-dire que la descendance de vos ancêtres est passée par l'arbre.
Ils se sont nourris de nos ancêtres pour mieux s'occuper de nous. Les arbres, parce qu'ils ont recyclé nos ancêtres, ça on le sait, biologiquement on le sait, mais ces baobabs-là, les feuilles on les mange, les fruits on les utilise, on les déshabille pour attacher les zébus dont on utilise le lait, alors ils sont toujours là, à toutes les étapes. Même on est malade, on utilise la pulpe de baobab pour soigner les diarrhées.
Ah oui. Et vous dites même, en ce qui concerne les baobabs et les acacias, que les cerères, cette tribu à laquelle vous apparteniez, ce groupe, est né finalement des baobabs et des acacias.
Ah oui, dans nos contes et légendes de la création, les cerères, au centre de leur vie, il y a l'acacia qu'on appelle acacia albida. C'est le nom scientifique. On dit aussi Federbia albida parce que le gouverneur Federbe français, ça, il portait le nom de Federbe aussi. Mais donc, c'est un acacia qui est au centre de toute notre cosmogonie chez les serrères. Donc, même quand les enfants venaient au monde, on venait présenter ça à l'arbre. Et ce sont des arbres qui sont sacrés. Pendant le mariage, on coupe des branches de cet arbre, on met dans la chambre de la mariée. Et puis, c'est ça, quoi. On pense que la vie a commencé avec un arbre. Et c'est très logique. Les arbres nous nourrissent. On est des hétérotrophes, nous. On fabrique rien, l'humain. L'humain, il mange ce que les végétaux chlorophylliens fabriquent. Donc, c'est des algues dans les loups. Ce sont les arbres qui font la photosynthèse, les plantes qu'on cultive. Mais tout ce que nous mangeons nous vient des plantes directement ou indirectement. Même quand on mange du bœuf,
c'est parce qu'on
a engraissé le bœuf avec des végétaux. Donc.
Oui. C'est ce que vous dites d'ailleurs aux gens qui sont végétariens. N'oubliez pas que le bœuf que vous ne voulez pas manger, il a aussi mangé lui-même
effectivement,
du végétal.
On est végétarien de niveau 1 ou niveau 2.
C'est ça. Et puis, il y a des très, très belles phrases, des très belles formules. Justement, là, j'en reviens à votre humanisme. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, je vais lui dire que j'ai inventé un nouveau mot, vous êtes un humoriste. Voilà, je me suis dit...
C'est beau ça,
on va mélanger l'humaniste et l'humoriste.
Ah, c'est très beau ça, Claudine. Un humoriste.
Un humoriste.
Ah, c'est très beau.
Alors, l'humoriste, entre autres, qui écrit ici, « Il y a au nord les pays riches du G20 et au sud les pays pauvres du G20. »
Ah, mais c'est vrai.
Oui, oui.
Malheureusement.
Mais quelle tristesse.
Et on pense qu'on peut se protéger du G20, mais... Oui. C'est une utopie de penser que c'est un mur qui va protéger les États-Unis du Mexique. La pire chose que le président Trump peut faire, c'est d'affamer le Mexique. On peut pas la révolution marche sur des ventres vides et on l'a vu en Europe. Il pensait, Albert Jacquard a écrit un livre il y a longtemps qui s'appelait Le souci des pauvres. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en Europe, c'est à peu près tout ce qu'il prévoyait qui arrive. Si vous ne vous occupez pas de ce qui se passe dans le Sud, un jour ils vont venir. Et lui a poussé la chose plus loin. Il a dit, et Jacquard, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et il a dit un jour, si les inégalités continuent sur ce rythme-là, ben arrivera un moment où peut-être que les pays, vos puissances, vos armes de destruction massive, vous allez les utiliser pour vous protéger des pauvres, de l'envahissement des pauvres. Et on le voit, hein.
Oh là là.
On le voit, et puis c'est ça. C'est un...
Ça fait mal, mais c'est la réalité.
C'est ça.
C'est ce qui est en train encore ce matin.
C'est un déséquilibre.
D'ailleurs, en filigrane, hein, dans ce livre-là, il y a beaucoup, énormément de métaphores sur le mélange des races, sur l'intégration. Vous parlez notamment pour cela de l'arbre de la tolérance. À un moment donné, dans un des petits pays...
Absolument, dans un petit village.
Où il y a trois sortes d'arbres qui se sont mélangés.
Ils ont fusionné. Les trois religions,
ici, en page 60 aussi, j'ai trouvé ça très très beau. Alors voilà, justement, ici, c'est l'arbre de la tolérance. Et en page 80, ici, s'il y a autant de problèmes... Ah oui, c'est parce que dans la seconde partie, il faut d'abord que je dise que dans la seconde partie, c'est la mère qui parle. Mais la mère, c'est pas la maman.
Non.
La mère, c'est un arbre. C'est un baobab qu'on surnommait comme ça, parce que le baobab avait un nom.
Oui, on l'avait... Quand celui qui l'a planté, mon ancêtre qui l'a planté, l'avait planté pour sa mère.
OK.
Donc, nous, on l'appelle l'arbre mère depuis.
D'accord. Et c'est cet arbre-là à qui vous avez donné la parole.
C'est ça.
Et à un moment donné, la mère dit, s'il y a autant de problèmes dans vos pays d'immigration, c'est qu'en plus du culte des racines, vous portez aussi beaucoup trop d'importance aux souches.
Mais
c'est ça.
C'est ça. Mais c'est pas que les souches ne sont pas importantes, mais il reste qu'une souche, quand on regarde ça de très près, c'est quelque chose qui agonise.
Exactement.
Qui agonise, c'est le restant d'un arbre qui est décapité. Alors l'arbre, il dit les graines sont importantes aussi. Il dit, avec mes graines, tu peux faire pousser un baobab semblable à moi, mais avec mes racines, c'est plus difficile.
Et d'ailleurs, parlant de graines, à un moment donné aussi, elle parle du baobab, mais aussi du cocotier.
Oui.
Et puis la noix de coco qui s'en va par les mers.
Oui.
Et finalement, je me suis dit, en pensant à vous, c'est plus un cocotier qu'un baobab. Alors,
je pense que les noix de coco sont des bons exemples pour celui qui veut apprendre à voyager.
Oui.
Et la technique, c'est de voyager léger pour flotter.
C'est ça.
Pouvoir flotter sur les mers et aller germer ailleurs. Mais même rendu à destination, la noix de coco a besoin d'aide. Et souvent, c'est le crabe de cocotier avec ses puissantes pinces qui ouvre la bourre de coco qui lui permet de germer.
C'est ça.
Et Une fois que la plantule a germé, elle mange ce qu'elle a ramené de son pays, qui est la chair blanche dans la noix. Ouais. Mais cette chair nostalgique, elle ne dure pas longtemps. Il faut que la noix s'accommode de ce que son nouveau pays lui offre. Alors donc, c'est quand même un bon voyageur, je trouve.
Boucard Diouf, rendez à ses arbres ce qui appartient à ses arbres. Ce que j'apprécie aussi beaucoup en vous, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est le fait que le scientifique, il ne la ramène pas. C'est-à-dire que le scientifique, il s'efface toujours derrière ça, finalement, derrière la parole, soit de l'arbre, soit derrière les contes, soit les paroles de votre grand-père. On vous connaît.
Il n'est jamais loin, par exemple.
Et il n'est jamais loin.
Il n'est jamais loin, mais il n'aime pas faire de la science de façon didactique.
Non, donc, c'est ça.
Il trouve toujours des chemins de contournement et il change les emballages de la science pour que ce soit plus facilement accessible, surtout.
Le dernier mot, le mot de la fin, ce sera la solidarité, parce que c'est le dernier mot de votre livre, en page 117, où vous nous écrivez, j'entends la musique, ça veut dire que l'émission est bientôt finie. La solidarité, mon fils, voilà le secret de la durabilité à tous les niveaux de la création.
Absolument.
Je vous remercie d'égrener ce mot-là à tous ceux qui veulent bien l'entendre, Boucard Diouf.
Ben merci. Il ne faut pas... Les premiers êtres vivants à coloniser la terre ferme, on a découvert les plus vieux êtres vivants au Canada cette semaine.
Oui.
Dans le nord, mais les premiers, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les premiers êtres vivants qui ont quitté la mer primitive pour s'installer sur la roche dure, ce sont les lichens. Les lichens ont permis à tous les autres vivants de vivre sur la terre. Et le lichen, c'est une association entre une algue et un champignon. C'est une coopération. C'est de la collaboration.
Merci.
C'est ça.
Salut. Ah, on l'aime, ce Boucard Diouf. Voilà, c'était le National cette semaine. Je voudrais remercier toute mon équipe, Mathieu Tessier, Jean-Sébastien Laliberté et Louise Vien. Merci à vous, bien sûr, de nous écouter. Et je vous rappelle que pour plus d'informations ou pour écouter nos émissions ou entrevues, vous pouvez visiter canalm.vuesetvoix.com. À la semaine prochaine.